Allez-y, fort, fort, fort. La paix. Ah, la sœur est bien écoutée. Voilà. La paix. Alors, on va parler, mais je vais vous parler de la paix de Dieu. Hein, ce sera un petit peu particulier. Voilà. Jean chapitre 14, un seul verset, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, bien sûr, j'aimerais vous parler tout d'abord de la paix en général, avant de vous parler de la paix de Dieu. La paix est sans doute la chose qui est la plus recherchée par les hommes. Par exemple, avant de partir en vacances, eh bien, vous vous informez pour savoir si le lieu dans lequel vous allez être logé pendant quelque temps est un lieu qui est fiable, propre au repos, parce que pendant les vacances, eh bien, on a envie d'avoir la paix. On est tellement tracassé durant toute l'année que c'est important, eh bien, de pouvoir se reposer, se détendre. Avant de partir, de bâtir, pardon, ou d'acheter une maison, ou même de louer un logement, on cherche à savoir auparavant si l'endroit est tranquille, puisque normalement, eh bien, tout le monde aime vivre dans un endroit calme, propice et propre au repos. Chaque année, il se dépense des sommes astronomiques en médication neurologique. Pour le seul Prozac, qui est un antidépresseur, les ventes atteignent des records, et ce, pour que les hommes puissent justement enfin goûter au repos, à la paix intérieure, face bien sûr aux difficultés que produit la vie. Nos gouvernements également dépensent des fortunes en armement pour pouvoir assurer la paix de leurs concitoyens. Et il est dit, je crois, que si tu veux la paix, eh bien, prépare d'abord la guerre. Et ainsi, on te respecte et tu es en paix. En tout cas, de quelque côté que l'on se tourne, on voit que tous les êtres humains sont en quête, justement, de paix. Parce que les conflits, par exemple extérieurs, comme les guerres, les famines, les maladies, les conflits, également intérieurs, comme la dépression, comme l'angoisse, l'anxiété, eh bien, petit à petit, eh bien, ça mine l'être humain et ça le rend de plus en plus affaibli, fragile, vulnérable. Alors, l'homme n'a pas été conçu à l'origine pour subir toutes ces agressions, hein, ce genre d'agression, parce qu'à la longue, eh bien, ces choses vont détruire son corps, son esprit. Et bien sûr que la paix, elle n'a pas de prix. La paix, elle est le but ultime de chacun. Amen. De tous. Qui préfère la guerre à la paix? Qui préfère les conflits, justement, à la paix? Levez la main. Tu préfères les conflits? Ah! Voyez, il faut bien écouter, hein? Eh oui, on préfère tous la paix. Oh, qu'on me laisse tranquille, hein? Eh oui, c'est comme ça et c'est normal. Alors, nous, les croyants, nous savons aussi, eh bien, nous sommes aussi à la recherche de la paix, mais nous savons quelque chose. Ce n'est pas une recherche aveugle, puisque justement, eh bien, nous avons la paix promise et certaine dans la personne de Dieu lui-même. Amen. Nous allons regarder la paix sous trois angles différents. Tout d'abord, le Dieu de paix, la paix avec Dieu, deuxièmement, et troisièmement, la paix de Dieu. Alors, le Dieu de paix, on retrouve cette expression à cinq reprises dans le Nouveau Testament, elle caractérise bien justement un des caractères de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de paix. Amen. Lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, pour l'envoyer délivrer justement Israël qui était eh bien captif sous la main de Madian, Gédéon bâtit un autel et il va lui donner le nom de l'Éternel paix. Juges 6, 24. Un bon moyen pour s'en convaincre, c'est de se retirer, par exemple, dans la nature. Vous avez envie de repos, etc. Vous voulez évacuer plein de choses. Vous allez dans la nature et vous vous laissez comme cela envahir par tout ce qui vous entoure. Et quelle est l'impression qu'on en retire? Eh bien, c'est le calme. C'est la paix. C'est le repos, c'est la tranquillité. Eh bien, parce que la nature transpire, justement, si on peut dire ainsi, les marques de celui qui l'a créé. Dieu est un Dieu de paix. Amen. Voilà pourquoi on retrouve une sérénité lorsqu'on est dans la nature. C'est paisible. Deuxième chose, c'est la paix avec Dieu. Alors, étant donné que Dieu est un Dieu de paix, ce qu'il décide et ce qu'il désire par-dessus toute chose, eh bien, c'est d'établir la paix entre lui et sa créature, entre lui et moi, entre lui et toi. C'est comme cela. Il veut tout simplement établir cette paix. Nous savons bien sûr tous que par la chute d'Adam et Ève, donc, l'homme est entré dans une tas de rébellion contre son Créateur et que Dieu a dû intervenir pour changer justement cette situation. Parce que ça ne pouvait pas continuer comme cela. On a besoin de paix. C'est Paul dans sa lettre aux Romains qui parle de ce résultat lorsqu'il dit dans Romains chapitre 5 verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Du moment où j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, du moment où je fais une démarche de foi vers lui, que je me repens de mes péchés et que je prends ce nouveau départ dans la vie, eh bien, j'ai la paix avec Dieu. Amen. C'est fait. La paix est établie. Quelque part, le contact est renoué. Et quand on est dans la présence de Dieu, quelle paix, quelle assurance. Alors ici, bien sûr, il s'agit du salut. Parce que le salut nous donne la paix justement avec Dieu. Nous ne sommes plus sous la culpabilité ou la condamnation devant lui, au contraire. On n'a pas à rougir puisque c'est fini. Nos péchés sont engloutis, sont jetés au fond de la mer. Mais nous sommes entièrement couverts par le sang de l'agneau. Alors la paix avec Dieu nous donne en outre toute l'assurance nécessaire pour passer au travers des épreuves de la vie. Là, cette paix-là, elle est là pour nous consoler. Parce qu'elle nous rappelle que nous sommes sauvés. Amen. Je suis sauvé. J'ai été lavé, purifié de mes péchés. J'appartiens à Dieu. Je suis accepté devant Dieu. Puis également, nous sommes assurés. Qui pourra nous ravir de le voir bientôt venir sur les nuées pour nous chercher? Parce que mine de rien, nous attendons le retour de Jésus. Hein? Eh oui. Malgré tous les bruits que nous entendons, malgré ce que la société nous présente, savons que le Seigneur nous a promis de revenir nous chercher. Alléluia. Il faut se préparer, bien sûr. Hein. Alors, cette paix est sans doute la plus recherchée par les croyants parce que, eh bien, elle nous fait entrer dans une relation d'intimité avec notre Sauveur. Elle nous fait également sentir d'une manière profonde que le Dieu de paix, eh bien, il vit aussi au-dedans de nous par son Esprit. Il habite dans nos cœurs. Amen. Vous pouvez être au milieu d'une foule en agitation, vous pouvez vous trouver dans une période de conflit où des personnes sont en conflit les unes avec les autres, vous pouvez être en paix, dans le repos, parce que le Seigneur est en vous. Amen. Il va vous le rappeler hein, à ce moment-là. Alors bien que ce côté de la paix soit intéressant, nous n'allons pas nous y attarder, mais nous allons passer au troisième. Et le troisième, c'est la paix de Dieu. Bien sûr, elle découle de la deuxième. Hein? Elle est quand même un peu différente. C'est une paix qui doit se manifester dans notre vie de tous les jours. Peu importe les circonstances, les épreuves, mon cœur reste en paix. Dieu a dit qu'il était avec moi, tous les jours, chaque instant. Alors, je ne vais pas m'inquiéter, je n'ai pas à m'affoler, mais je vais rester dans la paix. Cette paix qui habite le cœur du croyant, elle se manifeste par, je dirais, une conscience en repos. Vous voyez, ça se passe là. La paix de Dieu est donc inséparable, déjà, je vais le dire comme cela, d'une bonne conduite, d'une obéissance à Dieu. Et je crois que c'est le seul et unique moyen de savoir si la paix que nous avons est bien la paix de Dieu. Quand nous faisons le mal, qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui habite en nous est attristé. Et ainsi, nous perdons quelque part cette position qui est la nôtre. Nous perdons la paix. Nous sommes agités. Nous sommes énervés. Nous sommes irritables. Tandis que lorsque nous faisons le bien, eh bien, l'esprit qui habite en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et pour nous convaincre de ce principe, on va considérer les écrits du Nouveau Testament, par exemple, les Corinthiens. L'église des Corinthiens. C'était une église il faut le dire, elle était charnelle. Eh oui. Elle était immature, elle était pleine de troubles, de divisions, de tumultes, et j'en passe. Alors, le contenu de la première épître aux Corinthiens est presque en totalité des reproches. C'est ce que dit Paul. Il écrit. Également, c'était des exhortations à changer, à s'amender, bien sûr. Et le Saint-Esprit, étant attristé, ne pouvait pas rendre témoignage, ou ne pouvait rendre témoignage que par des réprimandes, des reproches. Un appel à changer, à se transformer, bien sûr. Alors, c'est pareil dans nos vies. Lorsqu'il y a quelque chose de travers, le Saint-Esprit ne peut pas produire la paix en nous. La paix de Dieu, bien sûr. Mais seulement un sentiment de malaise pour nous pousser, je dirais, à la repentance, pour nous amener ou nous réorienter vers la bonne voie, vers la bonne attitude, parce que c'est ainsi. La lettre aux Éphésiens, au contraire, elle est pleine d'assurance, de profondeur, de paix. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple, le Saint-Esprit n'avait rien d'important à reprocher à cette Église. Ainsi, il pouvait répandre la paix sans limite sur les croyants. Je lis Éphésiens chapitre 1er, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » À la louange, à la gloire de la gloire, de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de la gloire. Est-ce que vous trouvez un reproche ? Rien. Rien. Alors, il y a de même pour nous, lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit, n'est pas occupé à nous reprendre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il peut répandre justement la paix de Dieu. Il peut venir nous consoler, nous fortifier, nous encourager. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Déjà, il faut qu'elle y soit, la douceur. Eh oui. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Alors, la paix avec Dieu et la paix de Dieu, nous le voyons, sont intimement liées. L'une donne naissance à l'autre, mais l'une vient en premier, celle de la réconciliation qui nous donne la paix avec Dieu. Amen. Je suis en paix avec le Seigneur. Il faut que cela reste ainsi. Amen. Pour que le Dieu de paix, eh bien, soit celui qui m'anime, qui me propulse vers l'avant. Alléluia. Il y a également une autre chose que dont nous devons parler, car peut-être cette question vous est venue à l'esprit parfois, dans certaines situations où vous vous êtes posé la question, parce que parfois on voit des gens qui se disent croyants et qui ne marchent pas vraiment selon les voies droites du Seigneur. Et pourtant, eh bien, ils sont les premiers à vous affirmer tout haut, avoir la paix de Dieu dans leur vie. Moi, je suis en paix, tout va bien. Eh oui, et ils paraissent effectivement en paix. Alors, que doit-on en penser? Ils le disent, ils l'affirment, et puis on les observe, on dit, mais apparemment, il est en paix. Eh oui. Alors, les spécialistes du comportement humain parlent de la théorie de la dissonance, qui justement affirme que ce que quelqu'un pense et qu'il fait doivent être en harmonie. Autrement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La dissonance ou la discorde en résulte. Pour la plupart, la dissonance se manifeste elle-même par un sentiment de malaise, un manque de paix. La réponse humaine à la dissonance est de s'en débarrasser au plus vite. D'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut que la paix revienne. Il faut que la paix soit restaurée. Et le point important à regarder, c'est de découvrir comment la paix a été rétablie. Première façon de faire, c'est de nier la cause en trouvant des prétextes pour garder quelque chose de mal en nous, une mauvaise pensée, une mauvaise attitude, de mauvais agissements. On fait taire sa conscience. Non. Alors en agissant ainsi, on étouffe, comme je le dis, sa conscience. La conscience étant étouffée, elle ne peut plus nous accuser. Tiens, la paix revient. Eh oui. Mais en fait, de quelle paix s'agit-il réellement? Sûrement pas de la paix de Dieu, mais je dirais de la simple paix naturelle qui se déverse dans chaque être humain en l'absence de conflit intérieur. La deuxième façon de faire est de regarder courageusement ce que la parole de Dieu dit à propos de cela. Puis ensuite, de se décider à lui obéir, à se débarrasser de cette chose justement qui est là et qui est comme une pierre d'achoppement que l'on veut couvrir. Parce qu'on a besoin de la paix, on ne peut pas être torturé en permanence. Donc, on veut se débarrasser de cela. Alors, en le faisant, en affrontant, en regardant courageusement, en disant, c'est vrai que ça ne va pas, la parole de Dieu me le dit, maintenant, il faut que j'arrête avec cela. Bien sûr, je me tiens devant Dieu, je me repens de mon péché, je demande au Seigneur d'effacer, de m'aider, de m'encourager, et puis il va le faire, bien sûr. Alors, en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Notre conscience nous laisse tranquille, la paix revient en nous. Mais dans ce cas, la paix, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu, qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus importante que la paix naturelle, celle après laquelle nous courons. Cette paix est fondée et confirmée par l'Écriture, et non sur une déduction purement et logique et humaine pour étouffer notre conscience. Elle est la paix de ce qu'appelle de la sanctification, la paix de l'obéissance à Dieu. J'ai fait ce que Dieu attendait de moi. J'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai accepté de me remettre en question. Ça marche, puisque je me suis repenti. J'ai été convaincu de péché. Et pour retrouver la paix, je me suis repenti. J'ai été lavé. Dans 2 Chroniques, chapitre 14, ne cherche pas, je ne te l'ai pas donné, nous découvrons tout ce qui est nécessaire pour obtenir la paix avec Dieu et sur la manière également de se conduire lorsque nous avons la paix de Dieu. Le règne d'Asa fut marqué par la paix. Il nous a dit, 2 Chroniques, chapitre 14, verset 1er, « Il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. » Il fit ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. C'est-à-dire qu'il a obéi au commandement de l'Éternel. Il a choisi de faire plier sa volonté à la volonté de Dieu. Eh bien, il en a pris puisque il a été en paix. Son règne était un règne de paix. Alors cette parole est souvent répétée dans le livre des Chroniques, où nous voyons que l'obéissance à Dieu mène justement à la paix avec Dieu et également à la paix avec les autres. Donc, le premier pas sur le sentier de la paix, c'est le pas de l'obéissance. Oui, Seigneur, j'ai envie de vivre en paix. Je veux être en paix déjà avec toi. Je veux que ma conscience soit en paix avec toi, mais c'est également ce que tu me dis dans ta parole. Donc, je vais obéir. Être simplement, par exemple, présent aux réunions n'est pas assez pour sécuriser, je dirais, la paix de Dieu. Comme hasard, nous devons activement ôter toutes choses qui vont déplaire à Dieu. Ne pas nous y engager si nous le savons en plus. Parce que bien souvent, le Saint-Esprit nous avertit. Le Seigneur met comme des signaux d'alarme. Attention, chaussée glissante. Eh oui, donc on le sait. De même, devenir de plus en plus actif dans l'Église peut nous laisser dans le trouble si nous négligeons d'éliminer la pratique de certaines pratiques dans nos vies. La pratique du péché, par exemple, ou le mensonge, c'est un petit mensonge. Vous voyez. Alors, chaque enfant de Dieu devrait continuellement demander à Dieu de l'aider à enlever tous ces obstacles dans sa vie. Parce que ces obstacles, ces choses, ces pierres d'achoppement ou autres, vont ôter la paix, vont la faire diminuer, la faire disparaître. Ma conscience va me travailler. Certains me disent, je m'endors avec, je me réveille avec. Ben oui, mais il serait temps que tu cherches à t'en débarrasser plutôt que de l'entretenir, plutôt que de le faire vivre. Il faut que tu le fasses mourir. Et à partir de là, bien oui, tu seras bien. Tu t'endormiras avec la paix du Seigneur. Tu dormiras du sommeil, du juste, etc. Oui, c'est comme cela. Alors oui, il nous faut continuellement demander au Seigneur de nous aider. La paix de Dieu n'est pas seulement un temps de repos, elle est aussi un temps pour nous préparer pour des temps plus difficiles. Le roi Asa a reconnu que cette période de paix était le temps propice pour construire des défenses. Parce que au moment d'une attaque, ce sera trop tard. Il s'était préparé à ce que l'adversaire vienne pour justement eh bien, détruire cette paix, détruire tout ce que Dieu avait fait dans sa vie, dans son royaume. Voyez, donc, il le savait et il a pris ses précautions. Et pour nous, c'est la même chose. Parce qu'il est très difficile de résister à une attaque spirituelle, à moins que nous nous soyons préparés. À moins que nous ayons préparé nos défenses, à moins que nous soyons armés. Donc, construisons nos défenses maintenant, avant que la tentation fonde sur nous et qu'elle nous fasse capituler. Somme de chair, pensez-vous. Pensez le voisin, c'est mieux. Mais le voisin va vous pincer aussi. Hein. Eh oui, on est de chair. Il est dit que la chair eh bien, elle a de grandes faiblesses. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prenez aussi comme résolution de faire comme le psalmiste et de dire, au psaume 85, versets 9 et 10, « Et j'écouterai ce que Dieu dit, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu, hein, dit-il, qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. » Amen. Son salut est là. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Levez la main, vous aimez le Seigneur? Oh, une nuée, là, il faut tout le monde laver la main. Hein. Alors, si tu aimes le Seigneur, il faut que tu le craignes. Parce que c'est pour la bonne cause. Quand on aime quelqu'un et quand on le craint, on a envie de lui plaire. On n'a pas envie de ressentir de reproches. Amen. Alors cette paix ne se retrouve que dans la pratique de la justice. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe, chapitre 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Alléluia. Eh oui. L'œuvre de la justice, pas la justice des hommes. Vous savez, les balances sont dans nos tribunaux, elles sont là, hein. Mais bien souvent, c'est comme ça. Si tu es puissant, si tu es riche, si tu as les bras longs, par rapport à celui qui ne l'est pas, qui n'a pas tout ça. Alors, l'œuvre de la justice, hein, la justice de Dieu, ce sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos, la sécurité, non pas pour un peu, mais pour toujours. Amen, parce qu'il faut s'y maintenir. Job également tient le même langage lorsqu'il dit dans Job chapitre 22, verset 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Vous aimez le bonheur ? Non ? Oh, eh oui, on a envie d'être heureux. C'est le psalmiste qui poursuit en disant ceci dans le psaume 119. On ne va pas le lire en entier, on va prendre que le verset 165. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et ne leur arrive aucun malheur. » En tout cas, pas de situation qui te submerge. Pas de situation qui te fasse écrouler devant la situation que tu vis. Non, au contraire. Cette paix, est-ce que vous savez qu'elle nous est assurée ? On lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Vous connaissez ce texte, des fois on le chante. Hein ? « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Merci Seigneur pour ta compassion. Parce que c'est souvent qu'il nous arrive de ne pas comprendre et de réagir de la mauvaise façon. Alors qu'il est dit, quand les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient, moi, mon amour à moi, il ne s'éloignera point de toi. Même si tu ne peux pas le sentir parce que tu es tellement submergé, tu t'es pris au dépourvu, tu ne t'es pas préparé au fait. Et oui, mais son amour est là et son alliance de paix également. Elle ne faillit pas, elle ne chancelle pas. Amen. Parce qu'il nous aime. La paix également sera la grande caractéristique du millénium. Ésaïe 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. Vous l'avez déjà vu ça ? La panthère se couchera avec le chevreau. Oh, oh, oh. Vous dites ça justement aux spécialistes du monde animal, ils vous disent, oh là là, vous rigolez vous. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Parce que tout est paisible. Quand c'est l'harmonie avec Dieu, quand Dieu est celui qui règne, tout à l'heure on parlait avec la sœur, une sœur, de quand l'homme met sa main, il détraque tout. Mais c'est un peu ça. Ça, c'est les conséquences du péché, de la désobéissance d'Adam et Ève. Ils étaient bien dans le jardin d'Éden. Croyez pas qu'ils étaient bien ? Vous n'auriez pas aimé être dans ce jardin, vous ? Il y avait tout. Tout. La paix était là. Par-dessus tout. Et puis, eh bien, ils ont touché à ce qui était interdit. Ils ont désobéi. Alors que Dieu les avait avertis. Attention ! C'est une certitude. Si vous touchez à ce fruit, fini. Eh oui. Alors justement, si vous êtes éloigné de cette paix, eh bien il y a, je dirais, de bonnes nouvelles pour vous, car on lit encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, verset 18, « Et j'ai vu ses voies et je le guérirai », parce qu'on a besoin de guérison. Quand la paix n'est plus là, quand on est fuyé dans une situation difficile, parce que quelque part on s'y est engagé, il dit « Je le guérirai ». Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. La bonne nouvelle, elle est là. Si aujourd'hui tu te trouves éloigné de la paix, que tu n'as plus de repos, que tu ne sais plus comment faire, permets au Seigneur de te guérir. Invoque-le. Demande-lui de venir jusqu'à toi. Mets-toi à genoux, pleure, jeûne, prie. Amen. Et il va mettre la louange sur tes lèvres. Il le dit, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est prêt. Amen. Parce qu'on peut être prêt. Prêt de tomber. Prêt de prendre un mauvais chemin. On peut être auprès de lui aussi. Et être assailli de tous côtés. Seigneur dit, voilà, je suis là. et moi je vais te guérir et tu me loueras. Alors, ne nous méprenons pas, cette paix ne se trouve justement que dans la pratique de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut la vérité sur soi. David a résisté quand il a péché, quand il a fait mourir Uri, le Héthien, quand il a couché avec Bathsheba. Il a résisté quand le prophète est venu lui dire, l'histoire des brebis, une brebis, quatre brebis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a résisté. Mais que dit-il de cette période? Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Mes os se consumaient. Je gémissais à longueur de journée. Et puis, je t'ai fait connaître. J'ai avoué. J'ai dit. Là, c'est pas on, c'est j'ai. C'est moi qui ai péché. Ça me concerne moi. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur a enlevé la peine qu'il y avait en lui. La culpabilité a disparu. La paix est revenue. Amen. Et à ce moment-là, il a pu goûter tout à nouveau à ce que Dieu avait prévu pour lui. Il a pu exercer à nouveau son ministère, être ce leader. Amen. Alors quand je dis, il ne faut pas se méprendre, c'est dans la pratique de la vérité que nous allons garder cette paix. Il est Deutéronome chapitre 29, verset 19, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, car même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. C'est comme ça. Mais quand on a entendu le conseil de la parole de Dieu, quand on a entendu celui justement qui veut justement nous accorder sa paix, son repos, il faut lui obéir. Il faut faire sa volonté. La paix de Dieu est la chose que l'on doit rechercher, mais il faut qu'elle puisse se vérifier par les Écritures. Parce que c'est le seul moyen de démontrer avec exactitude que c'est vraiment la paix de Dieu qui est en nous. Est-ce que vous désirez vraiment, je le répète, vraiment la paix de Dieu? Ceux qui le désirent, levez-vous. Que le Seigneur vous voit comme ça. Moi, je suis déjà debout. Hein. Amen. On va fermer nos yeux, vous voulez bien? Pensez peut-être à ce qui fait obstacle aujourd'hui à la paix, vous le savez, parce que le Saint-Esprit vous le montre. Et dans votre cœur, dites, Seigneur, je me repens d'avoir gardé cela. Je me repens d'avoir mis un obstacle entre toi et moi par cette pratique, par mes paroles. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. Viens me pardonner, s'il te plaît. Tu m'as promis la délivrance si moi j'ai accepté de faire ta volonté. Si moi j'ai accepté de vivre selon ton conseil. Alors Seigneur, pardonne-moi. Je le crois. Tu me pardonnes. Aide-moi à vivre, Seigneur, en harmonie avec toi. Aide-moi à marcher dans la vérité, même si quelquefois c'est dur. Mais je sais que tu vas me donner la capacité, la force d'accepter d'affronter la vérité, même face à des adversaires plus forts, plus grands, plus puissants que moi. Mais je ne veux pas avoir une demi-vérité en moi. Je veux la vérité totale de ta parole. Merci de m'aider, de me pardonner, de m'encourager comme tu le fais ce matin. Seigneur, je veux te bénir maintenant pour tous ceux et celles qui ont compris qu'il n'y avait pas d'autre moyen que d'avoir la paix de Dieu en soi, dans toutes les vicissitudes de la vie, Seigneur, d'être tranquille dans le repos, de savoir que tu es là, ne pas avoir de doute. Dieu est-il là ou Dieu n'y est-il pas? Si tu es avec moi, Seigneur, je veux te bénir maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.